Jesus Christus.
Pas de riposte pour le moment d'Israël en Iran, mais Tsahal poursuit ses frappes meurtrières sur la bande de Gaza. Quelles conséquences auront ces tensions régionales sur l'enclave palestinienne où la crise humanitaire s'empire de jour en jour? Élément de réponse dès le début de ce journal. Catastrophe humanitaire également au Soudan, déchirée par une année de guerre civile. La communauté internationale réunie en conférence à Paris appelle tous les acteurs étrangers à cesser leur soutien armé aux belligérants. Rencontre très attendue demain à Pékin entre le chancelier allemand et le président chinois, et décryptage des enjeux économiques avec notre correspondante à Berlin, et puis élection législative anticipée ce mercredi en Croatie. Le président actuel Zoran Milanovic souhaite redevenir Premier ministre. Le candidat sociodémocrate est prêt à tout pour y arriver, y compris à s'allier avec l'extrême droite.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Près de 48 heures après l'attaque iranienne contre Israël, le gouvernement israélien n'a toujours pas annoncé ses intentions sur les suites qu'il entend donner. La communauté internationale et en tout premier lieu ses plus proches alliés comme Washington le pressent à ne pas riposter afin d'éviter un embrasement de tout le Proche-Orient. Cette attaque iranienne présentée par Téhéran comme des représailles à la destruction le 1er avril du consulat iranien de Damas peut-elle avoir une incidence sur le conflit en cours dans la bande de Gaza ? Pas nécessairement, estime Hasni Abidi, chargé de cours à l'Université de Genève et directeur du Centre d'études et de recherche sur les mondes arabes et méditerranéens.
Théoriquement, les deux conflits ne sont pas liés, mais dans les faits, ce qui se passe entre l'Iran et Israël est une continuation des événements du Gaza. La faillite sécuritaire israélienne et américaine lors de l'attaque de 7 octobre a montré finalement qu'il était possible de pénétrer à l'intérieur d'Israël. Le deuxième élément, c'est le gouvernement de M. Netanyahou a cherché, et surtout M. Netanyahou en personne, a cherché une parade, une diversion avec l'attaque du consulat iranien, malgré les mises en garde des États-Unis, parce qu'il sait que finalement cette opération va souder l'opinion publique et aussi va attirer le soutien de certains pays qui étaient jusque-là réservés quant à la gestion de Netanyahou, voire opposée à la gestion actuelle à Gaza, notamment dans le volet humanitaire. Oui, les deux dossiers sont liés. Benjamin Netanyahou cherche un répit, cherche de continuer. Il a toujours excellé dans la dynamique conflictuelle et pas la dynamique de paix. Mais je pense que pour les Américains et les Européens, le soutien est plutôt destiné à Israël et pas à Netanyahou en personne.
Des propos recueillis par Xavier Sartre, et en effet, même s'il ne souhaite pas d'escalade avec l'Iran, Washington continuera malgré tout de défendre Israël, a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Anthony Blinken aujourd'hui. Conséquence ou non des tensions avec l'Iran, 150 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël ce lundi, annoncent les autorités de la bande de Gaza. Les prisonniers libérés témoignent de mauvais traitements en détention. L'un d'eux fait état de torture, selon des propos recueillis par l'AFP. Pas de commentaires sur les conditions de détention par l'armée israélienne, qui a toutefois déclaré qu'il était absolument interdit de maltraiter des prisonniers. Et puis je vous le disais dans les titres, les bombardements se sont poursuivis ce lundi sur la bande de Gaza. Pas de répercussions d'Israël pour le moment en Iran. En revanche, au Liban, les attaques continuent. Le Hezbollah libanais pro-iranien a affirmé avoir activé des engins explosifs après que des soldats israéliens aient traversé la frontière. Sans confirmer cette information, Tsahal soutient que 4 militaires ont été visés la nuit dernière par une explosion. C'est une autre guerre, bien moins médiatisée mais tout aussi violente, qui entame sa deuxième année aujourd'hui, celle au Soudan. Il y a tout juste un an, des combats éclataient à Khartoum, la capitale soudanaise, entre l'armée régulière du chef d'état-major Abdellah Fattah al-Burhan et celle de Mohamed Hamdan Daglo, son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, le FSR. Dans une déclaration commune, la communauté internationale, actuellement réunie en conférence à Paris, exhorte tous les acteurs étrangers à cesser leur soutien armé aux belligérants. Cette guerre, c'est avant tout un drame humanitaire. Selon l'ONU, les combats ont fait plus de 6,7 millions de déplacés internes et 1,8 million de personnes ont fui le pays. Aza Ahmed Abdelaziz est soudanaise, anthropologue rattachée au CEDESH du Caire. Elle revient sur la difficulté pour les Soudanais de fuir leur pays en guerre.
Il y a beaucoup de difficultés à arriver dans d'autres pays aussi. L'Égypte, par exemple, à un moment donné, a été très généreux avec l'admission des Soudanais. Ce n'est plus le cas parce que je pense que l'Égypte aussi souffre de ses propres problèmes. L'arrivée des milliers de Soudanais, ça accable l'État égyptien et il y a eu des difficultés d'octroi de visa pour arriver. Maintenant, il y a plus de migration forcée, mais dans un sens illégal. Donc, beaucoup de passeurs, beaucoup d'exploitation de la misère des gens par les trafiquants. Le passage vers l'Ouganda est plus facile parce que l'Ouganda est un pays qui offre un statut de réfugié plus libre que les autres pays dans la région. En Éthiopie, c'est plus compliqué d'arriver à traverser la frontière. Je pense qu'il faudrait trouver des moyens justement plus efficaces pour arriver à communiquer avec le gouvernement central qui est basé au Port-Soudan en ce moment et avec RSF car ils détiennent des parties importantes du pays aussi.
L'anthropologue soudanaise Aza Ahmed Abdelaziz répondait aux questions d'Olivier Bonnel. Le chancelier allemand est actuellement en Chine. C'est la deuxième visite officielle d'Olaf Scholz dans ce pays depuis son entrée en fonction. Une visite importante de 3 jours avec un fort accent économique. Olaf Scholz est accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise car entre les deux partenaires commerciaux, les relations sont délicates. À Berlin, Delphine Nerbollier.
C'est un exercice d'équilibrisme qu'Olaf Scholz mène depuis hier en Chine. D'un côté, le chancelier vient y plaider un renforcement des relations économiques avec le géant chinois. Pékin est un partenaire commercial central pour l'industrie allemande. Or, les deux pays traversent une phase difficile avec une croissance au ralenti. De l'autre, Olaf Scholz doit parler des choses qui fâchent, les problèmes de concurrence déloyale, les difficultés d'accès au marché chinois. 3/4 des entreprises allemandes déjà installées dans le pays se plaignent de tels problèmes. Et elles ne sont pas les seuls. L'Union européenne a entrepris un bras de fer avec Pékin, accusé d'inonder le marché européen avec des produits bon marché subventionnés. La visite du chancelier allemand vise ainsi aussi à relayer le message de l'Europe. La position allemande est d'autant plus délicate que Berlin navigue entre deux eaux. Elle souhaite continuer à commercer avec Pékin tout en diversifiant ses clients et ses marchés pour limiter sa dépendance, une stratégie qui peine encore à se concrétiser. Au niveau diplomatique aussi, cette visite sera l'occasion de parler des conflits actuels en Ukraine et au Proche-Orient, alors que la Chine soutient la Russie et l'Iran. Olaf Scholz rencontrera le président Xi Jinping demain à Pékin. Delphine Nerbollier, Berlin. Pour Radio Vatican.
C'est un procès historique qui s'est ouvert cet après-midi aux États-Unis, le tout premier procès d'un ancien président américain, procès pénal. Donald Trump comparé devant la justice pénale pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels. C'était à quelques jours de l'élection de 2016. Théoriquement, il risque une peine de prison, pas de quoi l'empêcher pour autant à être candidat à la présidentielle de novembre prochain. À 7000 km de là, c'est un Trump croate qui défraie la chronique. Le président Zoran Milanovic se porte candidat au poste de Premier ministre pour les élections législatives légèrement anticipées qui auront lieu ce mercredi. Pour ce faire, le candidat du Parti social-démocrate n'hésite pas à draguer l'extrême droite. Les explications de notre correspondant Simon Rico.
Officiellement, il n'est pas candidat, mais c'est bien lui que l'on voit partout. Le Conseil constitutionnel a beau lui avoir interdit de se présenter, Zoran Milanovic n'en a eu cure, lui qui a traité ses membres de paysans illettrés. Son parti a d'ailleurs précisé que ce serait bien lui qui formerait le futur gouvernement en cas de victoire mercredi. Il faut dire qu'avant sa fracassante entrée en lice, le SDP plafonnait à 13% des intentions de vote et le Premier ministre conservateur Andrei Plenković se préparait à un troisième mandat consécutif malgré les nombreux scandales de corruption qui ont visé ses gouvernements. Zoran Milanovic promet de nettoyer le pays qui serait selon lui sale comme les écuries d'Ogias, quitte à renoncer à l'ancrage traditionnel antifasciste de son parti et à lorgner vers l'extrême droite pour espérer bouter hors du pouvoir les conservateurs. Ses saillies et ses attaques à tout va façon Trump séduisent et le SDP est aujourd'hui donné au coude à coude avec les conservateurs du HDZ. À Zagreb, Simon Rico pour Radio Vatican.
Et puis concernant ces élections, une déclaration de la Commission Justice et Paix de la Conférence des évêques de Croatie présentée il y a deux semaines déjà, appelle à préserver la dignité de l'ordre politique et constitutionnel de l'État croate. Troisième dimanche de Pâques hier, à cette occasion, les évêques catholiques du Burundi ont lu lors de leur messe un message appelant à des changements politiques dans le pays, notamment pour une meilleure inclusion de toutes les formations politiques, y compris celles de l'opposition, afin de garantir le droit d'expression au Burundi. Les évêques appellent également à une réforme du système judiciaire et à prendre à bras le corps la question de la pauvreté dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité du pape, du Vatican, de l'Église et du monde. Ça sera demain 8h30, heure de Rome, en compagnie d'Olivier Bonnel. En attendant, belle soirée à vous.